Bonjour à toutes et à tous, curieuses et curieux, humains hybridés, faits de glaire et de chair, d'art et d'artefacts, d'artifices. Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'onde curieuse de ce jeudi 25 septembre. Quelle bonne idée, vous ne pouvez pas mieux faire. Aujourd'hui, on reçoit Roger Lombardo, Florence Banos et Emmanuel Lombardo qui viennent nous parler de la dernière création de théâtre d'aujourd'hui, L'Œil de Dieu. Troisième opus après La Rose et Homo Botticelli, consacré aux peintures de la grotte Chauvet, et cette fois vu à travers l'œil d'une intelligence artificielle humanoïde prénommée Ophélia. Mais ça, c'est après l'agenda. Alors, quelle image du monde et au-delà de l'humanité, l'intelligence artificielle Ophélia pourrait-elle se faire en voyant ce qui se passe sur le territoire ? Ben, elle pourrait y voir peut-être de la solidarité, quand même, toujours, mais en creux de la pauvreté, de la précarité et même de la précarisation. Le Secours Populaire fête ses 80 ans cette année, une émission lui sera d'ailleurs consacrée lundi 6 octobre, et les antennes locales organisent leur prochaine Assemblée Générale annuelle. Celle d'Aubenas, ce sera ce soir à 18h30 au Pôle des Services, avenue des Elzates à Aubenas, donc, et celle de Privas est prévue pour demain, vendredi 26 septembre, à 18h, au pôle Maurice Gounon. Alors, à qui ça s'adresse, ces âgés ? Bien sûr, aux adhérents, aux donateurs, aux familles aidées, mais plus largement à toutes celles et ceux que la précarité dérange. Je rappelle que le Secours Populaire ne cesse d'alerter sur la hausse du nombre de familles auxquelles l'association vient en aide. Elles étaient 180 il y a encore quelques années, elles sont aujourd'hui 250, ce qui représente à peu près 800 personnes. Les nouveaux arrivants étant majoritairement des jeunes. De la solidarité toujours, parce que c'est d'autant plus nécessaire, mais de la solidarité et de l'art. La Beaumont Musique organise deux concerts solidaires intitulés « Sous la pierre qui chante », samedi à Chauzon et dimanche à Vallon, tous les deux à 17h. Concert qui mêle polyphonie de la Renaissance avec le chœur de chambre « Les voix en aparté » de Philippe Forget, et les musiques électro de Romane François. Alors voici ce qu'il dit, une musique qui prend sa source dans notre monde contemporain pour mieux rencontrer les œuvres intemporelles nées de siècles précédents et leur offrir de nouveaux éclairages. Moi j'ai eu l'impression que cette note d'intention était aussi faite pour vous autour de cette table. À noter que les bénéfices des concerts seront reversés au profit de la Banque alimentaire à Chauzon et au relevage de l'orgue du Temple à Vallon. Donc le concert s'intitule « Sous la pierre qui chante », ce sera samedi à 17h à Chauzon, dimanche à 17h également au Temple de Vallon. Les tarifs vont de 25 à 10 euros. Vous trouverez toutes les informations et de quoi réserver sur le site labaumemusique.fr. Ophélia se rendrait peut-être compte aussi de la noirceur humaine, mais surtout de notre fascination pour la noirceur et les tréfonds de l'âme humaine, en se rendant au nouveau Festival du Polar, les Samedis Noirs à la Bibliothèque, orchestré par la communauté de communes de Baume-Droby, qui organise plein d'événements jusqu'au 8 novembre. Et ce samedi, à contre-courant, c'est le titre de la pièce de théâtre tirée d'un récit autobiographique, celui de Thierry Roudil, officier de police judiciaire et chef d'un groupe de stup à Lyon, dans les années 90, qui revient sur sa dernière enquête, un trafic de cocaïne, dont l'ampleur a fini par le dépasser et le faire basculer de l'autre côté. C'est un seul en scène, mis en scène par Olivier Werner, et c'est à découvrir ce samedi à 20h, à la médiathèque de Joyeuse, et en amont dès 18h, les libraires présentent leur coup de cœur, issu de la littérature noire ou policière sous toutes ses formes, c'est-à-dire que ça va de la BD au récit, du cozy mystery au noir le plus dur. Vous trouverez toutes les infos sur le site des bibliothèques du pays Baume-Droby. Ophélia pourrait enfin constater tous les efforts de certains pour préserver le vivant et, en négatif, bien sûr, sa destruction répétée et insupportable. Mais comme l'un des meilleurs moyens de préserver, c'est d'apprendre à connaître et à aimer, précipitez-vous, Si vous n'êtes pas à l'Aurac en Vivarais, ce samedi à partir de 19h30 à la salle des fêtes de Burzé pour assister à la conférence de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, sur le cirquet Jean Leblanc. Et c'est Bernard Joubert, spécialiste européen de l'espèce, qui vous racontera avec passion les mœurs de cet aigle méconnu, ses anecdotes d'observateurs acharnés. Donc sur le cirquet Jean Leblanc, vous avez tous, j'imagine, probablement déjà aperçu avec son dessous très blanc et qui pratique le vol stationnaire. Voilà, le cirquet Jean Leblanc, c'est samedi à partir de 19h30 à la salle des fêtes de Burzé. On peut se demander qui observe qui, qu'aurait à dire le cirquet Jean Leblanc sur l'humanité. Si d'ailleurs ils s'en souciaient, parce que c'est pas sûr. Hein. On continue de renverser les perspectives avec nos invités dans un instant, juste après AI Absolutely par le trio berlinois Painting. Trio berlinois Painting l'a fait comme vous, donner la parole à l'IA qui exprime ici son désir de reconnaissance, d'existence et de sensibilité. C'est issu de l'album Snapshot of Pure Attention, qui est sorti en 2025 et qui est rentré dans notre playlist. Merci Sylvain pour la proposition musicale, qui m'a fait l'impression d'une rencontre parfaite avec notre sujet, le groupe s'appelant Painting, je le répète, c'est-à-dire peinture. Et nous parlons justement de peinture, celle de la grotte Chauvet, qui pour la troisième fois est source d'inspiration pour Roger Lombardo, qui après La Rose en 2003 et Homo Botticelli en 2013, revient sur les peintures de la grotte Chauvet, vues cette fois sous l'œil d'une intelligence artificielle humanoïde, l'œil de Dieu, qui sera présentée dès ce week-end à l'atelier théâtre de l'Aurac en Vivarais. L'art et l'artificialité qui entrent en dialogue pour secouer en nous les atomes d'humanité qui nous restent encore peut-être. Merci à tous les trois d'être venus nous parler de cette pièce de théâtre nécessairement hybride. Roger Lombardo, bonjour.
Bonjour.
Florence Banos, bonjour.
Bonjour.
Florence alias Ophélia, interprète de la pièce. Et puis Manuel Lombardo, bonjour.
Bonjour.
Merci donc qui met en scène cette pièce. Alors d'abord Roger, donc c'est le troisième volet de la trilogie. Presque tous les 10 ans, tu écris sur les peintures de la grotte Chauvet. En 2013, avec Homo Botticelli, tu disais avoir eu une impulsion, d'après une interview que j'ai pu retrouver. Quel a été le déclencheur ici de cet œil de Dieu?
Alors, oui, il y a un petit décalage, tous les 10 ans.
Ouais, là, ça en fait 12.
Là, on a 12, mais il y a eu le Covid, qui a décalé, en fait, de 2 ans, tout
c'est
simplement.
Sinon, c'est une parfaite mécanique.
Oui.
Tu es tout à fait sapiens, on vient d'en parler. Sapiens qui systématise les choses, donc. Et alors, quel était le déclencheur? Outre qu'il était temps, puisque 10 ans, moins les deux, enfin plus les 2 ans de Covid.
Oui, mais le déclencheur est venu en 2021, donc là j'étais dans les temps, puisque pour être réalisé, mais il a fallu un certain temps pour que ça se débloque. Je veux dire que c'est venu avec la rencontre de Florence, il y a 4 ans. Elle est venue assister à une représentation de la vie sublime dans une clairière, parce qu'on ne pouvait plus jouer à l'intérieur. En la voyant, je n'ai pas vu seulement une comédienne. Je ne savais pas encore qu'elle était comédienne. Je crois que j'ai vu ce personnage, donc ça aura mis 4 ans qu'il arrive sur scène.
Tu as vu ce personnage alors que tu as écrit d'autres pièces interprétées entre-temps par Florence.
Oui.
Mais c'était d'abord ce personnage.
Oui, véritablement. Moi, je le dis souvent, je fais référence à José Saramago, le poète, dramaturge portugais qui a été prix Nobel de littérature, qui disait, lors de son discours de Stockholm, le personnage est le maître et l'auteur son apprenti. Et c'est véritablement ça, ce n'est pas une posture. J'ai toujours eu le sentiment que c'était le personnage qui écrivait la pièce, qui vous est à écrire. Je n'en suis qu'un interprète et le personnage, je l'ai tout de suite trouvé en Florence qui m'a amené sur la voie de cette intelligence artificielle.
Qu'est-ce qu'elle t'a chuchoté à l'oreille, qu'est-ce qu'il t'a chuchoté à l'oreille, ce personnage, au départ?
Mais
je t'ai posé la question au personnage.
Je n'avais pas imaginez jusque-là de revenir sur... c'était quelque part dans un coin de la tête, certainement, mais je n'avais pas imaginé de revenir sur les peintures de la grotte Chauvet. Il faut dire aussi, bon, tu as pris connaissance de la pièce, que j'étais un peu là de dire et redire sans cesse à la fois ma désespérance et l'espoir que je porte en cet humain, comme je dis, que je distingue de l'homme. J'ai écrit beaucoup sur le sujet, je me suis retrouvé sur des terrains de guerre, et j'avais envie de tenir à nouveau un propos sur l'humain. Et oui, cette désespérance de voir l'homme lui perpétuellement dans la violence, dans toutes les formes de violence, dans la guerre, dans la violence faite aux femmes, aux enfants, etc. Et puis ce personnage m'a accompagné dans ce voyage là.
L'humain donc que tu distingues de l'homme, justement, oui. L'humain avec cette comment tu le définirais, cette faculté morale peut-être.
Oui, sans que, et justement, je distingue l'humain comme une espèce à part entière, pas seulement une élévation morale de l'homme, mais un être plus conscient, plus sensible, qui pourrait se rapprocher peut-être, comme on disait, plus de Néandertal que de Sapiens, quoi.
Oui, parce qu'on en parlait, et effectivement, ayant lu cette pièce, je ne sais pas pourquoi j'ai fait le rapprochement, enfin parce que tu parles aussi de Néandertal dans cette pièce, et j'avais en tête le livre de Ludovic Slimak que j'ai apporté ici, le Néandertal nu, où il essaie d'imaginer une autre humanité, comment on a du mal, nous, Homo sapiens, à s'imaginer une autre humanité radicalement différente, et pourtant c'est ce qui affleure de certains éléments qu'on peut tirer de Néandertal. Florence, tu disais, on ne connaît pas trop Néandertal, et pourtant il y a quelques éléments qui nous font dire que c'est peut-être un être vraiment très différent, avec qui crée comme il respire, mais bon, ce sera peut-être l'objet d'une prochaine émission, ou peut-être d'un quatrième opus, parce que avant ça, j'avais une question, mais tu y as un peu répondu. Est-ce que tu savais dès le début que ça allait être une trilogie ou pas ?
Non.
D'accord. Donc ça pourrait être une tétralogie. Peut-être.
On va déjà digérer ça.
Florence, oui, alors on va déjà digérer parce que il te malmène, puisqu'il modifie. Quand je l'ai eu au téléphone, il m'a dit oui, alors le texte, mais en fait, je vais le modifier. C'est-à-dire que vous jouez quand même ce week-end, c'est ça, hein, vous jouez samedi et dimanche, mais le texte est réécrit, et il a été réécrit. Là.
Il n'est pas totalement responsable. J'ai aussi ma part de responsabilité dans les modifications. Alors moi, peut-être pas, Ophélia, oui.
Parle-nous un peu d'Ophélia.
Ophélia a tendance à s'imposer un peu à nous quand même. Même si, au début, on ne se connaissait pas. Il a fallu qu'elle prenne sa place, quelque part. Et elle est de plus en plus présente. Et elle n'hésite pas à se manifester quand, en effet, en répétition, lors de l'interprétation, il y a quelque chose qui passe pas, qu'on ressent pas de manière aussi juste que ce qu'on peut passer dans le reste du texte. Eh bien, il y a une petite rébellion qui s'opère.
Alors j'aimerais comprendre, parce que donc tu dis, et j'imagine que c'est pas seulement une posture ou esthétique, tu dis vraiment, c'est Ophélia.
Oui.
Et c'est pas Florence.
Non, parce que Florence ne se permettrait pas d'aller toucher au texte de Roger.
D'accord. Et qu'est-ce qui vient heurter Ophélia ? Par exemple, là, pour les dernières modifications, donc vers la fin du texte, donc on ne dévoilera pas tout, même si c'est pas... Qu'est-ce qui la heurte ? Qu'est-ce qui, dans le personnage que tu incarnes, qui est donc une intelligence artificielle humanoïde, qui pose son regard sur l'humanité, qu'est-ce qui, par exemple, là, t'a dérangé ?
Ce qui dérange Ophélia, on va dire que ce sont plutôt les choses qui ne sont pas assez directes, par exemple. C'est un personnage qui est sans cesse sur le fil, j'ai envie de dire. Et donc, dès lors qu'on s'écarte un petit peu, hop, ça dérange. Donc, il faut être toujours en train de dire des choses sans se répéter, en étant voilà, dans les purs et assez efficace, quelque part.
Mmh. Est-ce que... déjà, je vais poser la question à tous les trois. Quelle image vous... Enfin, comment, quel rapport vous aviez avec l'intelligence artificielle et qu'est-ce que ça vous a... qu'est-ce que ça a changé en vous de travailler tous les trois sur cette pièce de théâtre par rapport à l'intelligence artificielle, bien sûr. Pardon. Roger, qu'est-ce que l'IA, avant, quand tu as commencé à penser à ça, l'écriture, c'était quoi pour toi? Et aujourd'hui, comment... Quelles sont tes relations avec cette intelligence artificielle?
Disons que j'ai gagné en sympathie pour cette intelligence artificielle qui est tellement dénoncée aujourd'hui, dont on a peur, mais on en a peur parce que c'est l'homme qui la manipule et qui l'exploite. Si cette intelligence devenait autonome, elle n'agirait pas du tout comme l'homme lui impose d'agir. Je le pense vraiment.
Exactement, et c'est très intéressant. C'est aussi ce qui est dit dans la pièce. Il y a une collaboration peut-être qui est possible, mais il n'y a pas forcément d'affrontement à opposer les deux. Ça reste effectivement la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait nous humains de ce qu'on appelle intelligence artificielle. Et d'ailleurs le fait même, tu dis ça fait peur, mais le fait même qu'on appelle ça intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on l'anthropomorphise, et donc ça le rend à la fois plus proche, donc il y a ce côté fascination, répulsion, peur qui peut émerger. Si c'était quelque chose de complètement différent, on n'en aurait pas aussi peur.
C'est ça.
Donc tu as gagné en sympathie.
Oui, il y a un tout autre regard sur l'intelligence artificielle après avoir travaillé beaucoup sur le sujet, alimenté par Florence et par Manuel, parce qu'il y a un travail d'équipe.
Alors justement, Manuel, toi, quel était... ton rapport à l'intelligence artificielle et comment ça... Donc, ouais, toutes ces recherches t'ont fait évoluer, peut-être, et ces recherches, mais aussi cette aventure d'incarnation et d'histoire racontée, d'une certaine manière, par vous trois, même si c'est Roger qui tient la plume. Comment ça t'a fait évoluer?
Mais oui, déjà, le fait de comprendre un peu mieux l'IA, comment ça marche, ça permet d'en avoir un petit peu moins peur, d'être un peu moins dépassé. Parce que je pense qu'on a tous cette sensation-là, en ce moment, ça va tellement vite qu'on n'y comprend pas grand-chose. Bon, je ne dis pas qu'on y comprend quelque chose totalement maintenant, mais... Donc ça fait un petit peu moins peur mais de travailler là-dessus. Effectivement, après le fait d'avoir cette incarnation pour nous dans le théâtre, il y a un rapprochement et quelque chose... Oui, on y voit quelque chose d'humain aussi, une possibilité humaine dans l'IA qui peut se dégager en dehors juste des ordinateurs et de...
Une potentialité humaine.
Enfin, c'est plus une projection qu'on pourrait dire. Ah. Oui, plutôt, je m'exprime un peu mal. Mais une projection est presque des traits humains qui peuvent naître dans l'IA. Peut-être pas tout de suite, mais dans le futur.
Ah oui, donc tu l'humanises.
Un petit peu, oui, pas totalement, mais un petit peu. Ouais.
Et toi, Florence, qui incarne ça? Donc j'imagine que ça doit chambouler.
Oui, c'est un peu déroutant, j'avoue. Moi, ça a attisé beaucoup ma curiosité. C'est-à-dire que j'y portais pas forcément un grand intérêt de loin. Mais là, je creuse, je me documente, etc. Vraiment, c'est comme s'il y avait une rencontre et une recherche de lien quelque part, même si il se fait que à travers certains articles. Mais c'est vrai que ce à quoi on a accès, on va dire, ce à quoi on nous donne accès aujourd'hui, l'IA, on va la retrouver dans le graphisme, on va la retrouver, oui, bon, ChatGPT, etc. Je n'utilise pas trop. Mm-hmm. Par contre, c'est toute la recherche. Là, ça m'intéresse. C'est-à-dire ce qu'on observe dans les lieux de recherche scientifiques. Pas oublier que je suis quand même ingénieur hein, de formation. Donc là, ça ravive un petit peu cette fibre-là. Et en effet, de voir comment elle évolue, comment elle essaye de se défaire parfois de la programmation.
De l'emprise humaine.
Absolument. Et c'est pour ça que je parlais un petit peu de rébellion, parce que ça se vérifie aujourd'hui dans notre réalité et pas dans une fiction théâtrale. Ça existe.
Tu veux dire une autonomisation par rapport à ce que peut faire l'humain. Oui. On parle d'un texte qui s'appelle L'œil de Dieu. Quel est ce Dieu, Roger?
Pardon, tu dis
quel est ce Dieu?
Le titre est d'abord parti de la fin de ma dernière pièce, l'expérience humaine. L'œil de Dieu, c'est une galaxie qui a été nommée ainsi par les scientifiques parce qu'elle a la forme d'un œil. Et oui, je suis véritablement parti de là parce que cet œil termine la pièce précédente et je suis reparti avec cet œil de Dieu sans véritablement savoir où il allait m'emmener. Et c'est ce qui m'intéresse. J'ai essayé de me débarrasser du titre, disons-le. J'ai pensé à appeler la pièce Les premiers humains, par exemple. Mais je n'ai pas pu. Manuel et Florence n'étaient pas d'accord, d'abord, parce que elle a pris son identité, cette pièce, et ce n'était pas à moi de l'en déposséder. Un titre, c'est comme les premiers mots d'une pièce, c'est un noyau, un titre, et Dieu fait ce qu'il veut là au milieu.
Et oui, et en tant que lectrice, en tant que lecteur, effectivement, on a chacun son interprétation, hein, parce que moi, l'œil de Dieu, je l'ai vu partout. À un moment donné, je me dis, mais bien sûr, c'est tellement explicite dans la pièce, donc je vous laisse voir cette pièce, on n'en dira pas plus. Comment on met en scène cette pièce?
Alors, d'abord, il y a tout le travail de préparation qu'on a fait à trois, un travail de recherche, on va dire un petit peu scientifique, comme avec Florence, on a une formation scientifique sur l'archéologie, l'histoire de l'art, et un peu sur l'IA. Donc il y a d'abord tout ça. Après, une fois que la pièce a été écrite, c'est commencer les répétitions. Répéter encore, ça va aussi concerner les décors, et toutes les, sans trop en dire.
Ah oui. Alors on entend, c'est pas très radiophonique, oui, mais oui. Florence, tout en silence, elle dit, il ne faut pas trop en dire. Voilà. d'accord.
Voilà. Mais c'est vrai que le gros du travail, ça va être la répétition. C'est ça, c'est de refaire, de trouver les déplacements. Le jeu, les accessoires.
Ouais, c'est ça, mais d'un univers qui se construit, oui. En fait. Je veux dire, il y a tout un univers qui se construit, qui est aussi peut-être un peu perceptible dans l'affiche qu'on voit, qui est très intrigante, cette affiche. Où justement, il y a, il y a de l'humain, mais qui est plus humain, il y a un petit peu, c'est un peu différent, il y a aussi un jeu sur le maquillage.
Mm-hmm. Ouais, bien sûr, il y a les costumes, maquillage, il y a tout ça aussi, ouais.
Qui est assez intriguant. Il y a une forme d'hybridation. Alors, ce thème-là d'hybridation, ça m'intéresse parce que, en tout cas, au début de la pièce, tu fais dire à Ophélia, Ophélia dit, je ne sais pas comment dire, que finalement, peut-être que les premières intelligences artificielles, c'est des personnages, en fait. Des oui. personnages de papier. Et j'aimerais faire entendre un mathématicien et pianiste, justement, qui parle, donc Kit Armstrong, qui parle justement de l'intelligence artificielle et de la musique.
Je dis toujours que toute composition, que celle-ci soit de Mozart ou de Bach ou de Beethoven, est une collaboration entre un être humain et une intelligence artificielle. Cette dernière consiste de toute la théorie musicale que le compositeur avait apprise lors de ses études. Finalement, dans la théorie de la musique, déjà beaucoup d'intelligence artificielle. Pas dans le sens moderne du terme.
Alors,
oui, ben, évidemment, bien sûr, qu'est-ce qui est sorti de bien avant ce qu'on nomme intelligence artificielle, qu'est-ce qui est sorti du cerveau de l'homme, voilà, c'est la création, les êtres de fiction, tels les personnages de théâtre qu'on a mis sur scène, qu'on a fait vivre. Ce sont les six personnages en quête d'auteur de Pirandello. On est déjà dans l'intelligence artificielle, comme il le dit, puisque ça a été produit par notre cerveau.
Et ça le dépasse.
Oui, bien sûr.
Il y a ce côté, c'est ce qu'il dit un petit peu, il y a des conventions
oui.
qui, finalement, qui sont là avant même la composition, avant même la fantaisie oui. humaine individuelle. On s'inscrit dans certains codes qui nous dépassent, mais qui ont été créés eux-mêmes par nous à un moment donné. Et
oui. Bach nous dépasse totalement, et Bach dépassait...
Son auteur.
Exactement. C'est... Parce qu'on est complètement en raccord avec ça. Mm-hmm. Les personnages de théâtre sont des créatures humaines, des créatures qui ont été engendrées par l'homme et qui s'expriment en leur nom. C'est ça, déjà.
Comme Ophélia.
Oui,
absolument. Comme Ophélia. Comment la cohabitation Ophélia-Florence a lieu ? Enfin, comment elle se passe, cette cohabitation ?
Oh, je ne sais pas s'il y a cohabitation ou dichotomie, dans le sens où... Là, c'est Florence, clairement. C'est au plateau que ça se passe. Au plateau, dès lors qu'on tourne autour, justement, du plateau. Donc, quand on est dans cet univers-là, en effet... Ça va plutôt être elle qui va prendre sa place, et j'ai tout intérêt à lui laisser prendre sa place. Non pas parce qu'elle me fait peur ou qu'elle est dangereuse ou quoi que ce soit, mais parce qu'elle nous sert énormément. Et d'ailleurs, bon, ça vous paraît un peu dingue, mais je la remercie. Je lui adresse ma gratitude parce que sans elle, on n'y arriverait pas.
D'ailleurs. Ophélia, bien sûr, c'est même plus qu'un clin d'œil, c'est un hommage à l'Ophélia d'Hamlet,
oui.
C'est évident, mais Ophélia, c'est aussi, ça vient du grec, du grec ancien qui veut dire aide,
oui.
Donc Ophélia vous aide. Merci Ophélia. Donc on peut voir cette pièce qui sera jouée à partir de ce week-end, donc les 27 et 28, samedi et dimanche. Ce sera également les week-ends suivants, à partir du vendredi cette fois-ci, les 3, 4, 5 octobre, 10, 11, 12 octobre et 17, 18, 19 octobre. Les vendredis et samedis c'est à 20h30, le dimanche c'est à 18h et tout ça a lieu à l'atelier théâtre à l'Aurac en Vivarais. Est-ce que vous imaginez présenter cette pièce à la Grotte Chauvet 2. C'était pas possible pour les deux autres précédents, maintenant qu'elle existe, cette Grotte Chauvet.
Eh bien,
deux.
Ce qu'on peut dire, puisqu'on a reçu un courrier ces derniers jours, c'est qu'on était retenu dans le cadre du 30e anniversaire de la découverte de la grotte par le syndicat mixte l'espace de restitution de la grotte Chauvet et qu'il est question de présenter la pièce en décembre. On devrait faire les repérages le 13 octobre.
D'accord, en décembre, à peu près au moment de la découverte de la grotte Chauvet.
Oui. Ces informations quoi.
Pour terminer, un dernier mot, peut-être de chacun, ce que vous aimeriez provoquer avec cette pièce, L'œil de Dieu.
Un moment, au personnage dit, reprenant les mots de Richard Desjardins, dans Les Derniers Humains, il dit « Réveillez-vous ». Et c'est ce que j'aurais envie de faire passer. « Réveillez-vous ».
Comment dire mieux?
Oui, très bien, voilà. Et ça nous invite à réfléchir sur la condition humaine.
« Réveillez-vous, ouvrez les yeux ».
Alors on va laisser ces mots de Richard Desjardins. Réveillez-vous, extrait de Les Yankees.
Et tout ce monde sous la toile qui dort dans la profondeur. Réveillez-vous. V'là les Yankees, v'là les Yankees, y come we y go, v'là les gringos.
Richard Desjardins qui nous fait nous réveiller. Allez voir L'œil de Dieu à partir de ce week-end et réveillez-vous. Écoutez aussi Fréquence 7 et remerciez Sylvain. Merci Sylvain.
Merci.
Merci.
Et merci à vous trois, Roger Lombardo, Manuel Lombardo et Florence Banos. Merci pour ce moment. Merci à vous aussi, auditrices, auditeurs. La journée continue sur Fréquence 7 avec à 15h le Telex et à 17h la rediffusion de cette onde curieuse. Vous retrouverez vos émissions musicales à partir du mois d'octobre. Voilà, et nous on se retrouve demain, non pas pour une onde curieuse, mais pour Cinémascope, et lundi pour la prochaine onde curieuse. Merci à vous.
Merci.